Je m'appelle Jérémy Bécu, j'ai 25 ans, j'habite à Saint-Sébastien-sur-Loire, où je fais de la free party. J'ai découvert ça à la fin du lycée. Ça m'a pas paru extraordinaire, puis en fait je suis retourné quelques années après, à Paris, dans des champignonnières. Là c'était génial, c'était trop bien, le cadre était génial. Et puis après, pendant un moment j'en ai pas refait. Parce que j'avais pas les contacts, parce que voilà, je connaissais personne qui y allait, que c'était une période où j'étais assez seul aussi. Et ouais, j'y suis retourné. Au final, je fais quoi? J'ai fait 2 mois de teuf et puis j'ai fait mon premier technival 2 mois après, quoi. C'était plutôt cool, j'avais bien. C'était marrant. Ça fait 3-4 ans que j'y vais régulièrement. C'est l'endroit où j'arrive à vider tout ce qu'il y a dans ma tête, tous mes problèmes, tout ça. Ça fait du bien de danser. C'est une fête avec plein d'amis, même si on les connaît pas, c'est tous des amis. Il y a une vraie fraternité là-dedans. Personne ne juge personne. Et on va tous prendre soin les uns des autres. Et on est tous là pour profiter du son. C'est ce qui nous réunit. Et ce qui est dommage, c'est qu'on soit marginalisés. Parce que voilà, on fait ça dans l'illégalité parce qu'on nous donne pas l'occasion de le faire dans la légalité. Et on est marginalisé parce qu'il y a de la drogue qui tourne, mais il n'y en a pas plus qu'en boîte ou autre chose, c'est juste que c'est moins caché. Je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'ils ont attaqué au 21 juin, c'est que sur place c'était quasiment que des teufers. Et ce serait pas arrivé si ça avait été n'importe quel autre style qui est maintenant accepté par la société. Au collège, j'écoutais beaucoup de rock, metal, tout ça. Après, au lycée, ouais, j'ai continué à écouter du rock, du metal, mais je me suis mis au reggae aussi. Enfin, j'ai toujours été assez éclectique. J'ai écouté du classique, du jazz. Enfin, ouais, j'écoute vraiment de tout. La techno aussi, depuis le lycée. Mais c'est vrai que j'en écoute de plus en plus. Enfin, tous les jours, j'ai besoin d'en écouter. Des fois, je me retrouve avec mes écouteurs ou mon casque à marcher dans la rue, me mettre de la techno et danser tout seul en marchant. Et enfin ouais, c'est une musique, j'en ai besoin, elle me permet de me vider la tête. Sort du 21 juin, je travaillais de nuit. J'ai terminé vers 2h30, donc là c'est le collègue avec qui je travaillais qui m'a proposé de m'y amener. On a mis 10 minutes en voiture à peine. Donc je suis arrivé, il m'a déposé, lui il est reparti chez lui. En arrivant sur place, je fais mon petit tour sur le long du quai, le long des différents sons pour voir un peu ce qu'il y avait. Donc il m'est arrivé de me poser 2 minutes, 3 minutes devant un son, puis repartir. Au bout d'un moment, je croise des amis. Bon bah du coup bah, je reste avec eux, on boit une petite bière, et puis on discute, on reste devant le son, on chante, on danse. Très bonne ambiance, enfin ambiance faite de la musique, tout le monde s'amuse, on sait qu'on est au bord de la Loire, donc bah on fait attention. Et puis voilà quoi, il y a un moment il y avait quelqu'un qui jouait avec un bâton enflammé à chaque bout, là je sais plus comment on appelle ça. Et ouais, c'était ambiance plus ou moins ambiance teuf au final. Il y avait les murs de son, il y avait des gens qui faisaient de l'art, on tapait de la pâte, enfin on était... Ouais, c'était ça, c'était ambiance teuf. C'était cool, tout le monde était content, c'était jovial. Toutes les années précédentes, bah on y allait, et puis bah on faisait notre soirée, et puis les policiers venaient pas nous embêter. Ils étaient là, ils surveillaient, mais enfin au final ils nous voulaient pas de mal. Et on faisait pas de mal, donc ça s'est toujours bien passé, et puis bah... La fête s'est terminée bah, quand tout le monde était fatigué, où je me suis eu des années resté sur le quai jusqu'à 1h de l'après-midi le lendemain. Et c'était le moment dans l'année où on pouvait en profiter sans qu'on ait de problème, que les flics soient à la sortie de la teuf pour nous mettre des amendes. Donc ouais, toutes les années, il y a tous les teufers de Nantes et des alentours qui se retrouvent là-bas. Ça allait des jeux pour enfants jusque sur le quai Wilson. Et enfin, on avait quasiment 1 km de mur de son, donc toutes les années précédentes. Là, on en avait à peine la moitié. Et enfin, ouais, je sais pas comment expliquer ça. C'est bizarre. Enfin, pour moi, c'est bizarre comment ça s'est passé et tout ça. Donc, bah, on a discuté, on a dansé. À un moment, j'ai un copain qui m'a payé une canette de 50 centilitres. Donc, bah, je l'ai bu. Et puis, bah, on a continué à danser, à discuter. Puis après, arrive 4 heures. Donc, le son de système où on était, on coupe le son. Sans dire au revoir, sans rien. Donc, bah, là, on comprend que c'est la fin. Donc, on commence à se dire au revoir avec mon pote. Puis là, on entend un son de système qui continue à donner. Donc on va devant, on continue à discuter. Là, c'est pareil, il recoupe. Là, moi, je regarde, je vois les gyrophares derrière la tente du DJ. Donc bah, je me pose pas trop de questions. Je fais, ouais, c'est bon, enfin voilà, c'est la fin. Les policiers ont dit, on coupe. Je redis au revoir à mon pote, du coup. Et puis, là, je commence à partir et le son remet une chanson. C'était Porcherie des Béruriers Noirs. Donc du coup, bah, tout content, j'y retourne. D'un coup, ça a coupé. Et là, je me souviens, je regarde la foule. Et du milieu de la foule, je vois de la fumée en plein milieu qui sort, qui s'élève. Donc là, je comprends que bah, ils ont envoyé des gaz. Donc moi, je me dis que je vais pas rester là parce que déjà, c'est dangereux, parce qu'il y a la loi derrière. Et que moi j'avais des choses à faire et je voulais pas rentrer là-dedans. Donc bah je commence à partir en direction du hangar à bananes. Et donc je fais 1 ou 2 mètres, je croise une amie, enfin une connaissance. Elle se retrouve derrière moi, je me retourne, je lui dis bonjour. Je la préviens que les flics ont balancé des gaz. Donc du coup je lui dis au revoir parce que moi je voulais partir. C'était vraiment « Jérémy, il faut que tu partes, casse-toi ». Là, je me retourne pour prendre ma route. Et au final, je commence à sentir mes yeux qui me piquent, le visage qui me brûle. Donc là, je comprends que bah, les gaz m'ont rattrapé. Et ouais, je suis un peu désorienté avec le fait de m'être retourné assez vite. Plus les gaz, je vois pas grand-chose devant moi vu que je me frotte les yeux et tout ça. Et au bout d'un moment, je sens mon pied gauche atterrir dans le vide. Je ressors la tête de l'eau, je sais pas, je pense que c'est mon sac qui, vu qu'il y avait de l'air, il m'a aidé. Et puis donc je me retrouve face au pont des trois continents. Donc du coup j'essaie de nager, parce que devant moi il y avait des cordes, donc j'essaie de les atteindre pour m'accrocher à quelque chose. Sauf que j'étais à contre-courant, donc impossible d'avancer. Au lieu de me fatiguer pour essayer d'atteindre la corde qui était devant moi, je me retourne. Je me suis laissé un peu porter par le courant jusqu'à ce que je vois quelque chose à quoi m'accrocher. Et j'ai dérivé sur 2-3 mètres, peut-être un peu plus. Et là, je trouve quelque chose à quoi m'accrocher. Une corde, pareil, qui descendait du quai. Il y avait une belle lune ce soir-là. Donc ça se reflétait sur la Loire, donc ouais, je distinguais assez bien ce qu'il y avait autour de moi. Ce qui m'étonne, c'est qu'à aucun moment j'ai paniqué. J'ai réussi à garder mon sang-froid tout le long et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, entre guillemets. Thank you. m'accroche à la corde. Là, j'entends que ça pète. J'avais juste le son des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes, ce que j'ai pris au début pour des feux d'artifice. Jusqu'à ce que je me rende compte que ouais, le ciel il était pas illuminé et que non, c'était les flics qui tiraient. Du coup, dans ma tête, ça fait bah Jérémy, attends avant de demander de l'aide, attends que ça se calme au-dessus, parce que de toute façon, on va pas t'entendre. Donc ouais, je m'accroche pendant 5-10 minutes, et là, face à moi, je vois 3, 4, 5 personnes qui tombent à l'eau. Et après, une ou deux minutes plus tard, derrière moi, j'entends quelqu'un qui appelle à l'aide. Donc bah, je me suis retourné, il est passé juste à côté de moi, je pouvais l'atteindre. Donc bah, du coup, je l'ai attrapé et je l'ai accroché à la corde avec moi. On est resté un peu en silence. Dans la chute, il s'était cassé l'épaule. Donc ouais, c'était pas le mieux. Moi, j'ai essayé de balancer 2-3 blagues histoire de détendre un peu l'atmosphère. Mais enfin voilà quoi, c'est compliqué dans ces moments-là. Donc ouais, on est resté en silence. Donc ouais, moi j'étais accroché avec les deux mains vu que bah, j'avais les deux mains disponibles. Lui, il était accroché avec une main, donc bah, j'essayais de le garder près de moi pour pas qu'il dérive. Le courant était relativement fort. On sentait qu'on était emporté. Au bout de 5 minutes où on est accroché tous les deux, là, au loin, à une quarantaine, cinquantaine de mètres devant nous, on entend quelqu'un crier « Ouais, il y a quelqu'un qui m'a poussé contre le quai, il m'a sauvé la vie, je l'ai vu couler, je l'ai vu... Enfin, il est mort, je l'ai vu couler, il m'a sauvé. » Enfin, pendant 5 minutes, il a crié ça. Et c'est là que bah, on a tous commencé à appeler à l'aide. Et puis en plus, sur le quai, ça s'était calmé. Donc bah, du coup, il y a des gens qui nous ont entendus. Ils ont commencé à appeler les secours. Et puis ils nous illuminaient avec leurs flashs. On est resté dans l'eau, accroché à la corde, avec les gens au-dessus, jusqu'à ce que les secours arrivent. Enfin, moi, pour moi... De ma chute jusqu'à ce que le secours arrive, je suis resté une demi-heure dans l'eau. Après, les secours, ils sont arrivés au bout de 10 minutes, un quart d'heure, mais le temps de récupérer les personnes qui étaient avant nous. Et tout ça, moi je suis resté un peu plus longtemps, surtout que j'ai fait monter donc le mec que j'avais aidé avant moi vu qu'il était blessé. Et puis, moi au bout d'un moment, donc j'avais le torse hors de l'eau. Mais j'étais trempé, donc je commençais à avoir froid, donc le temps qu'il le fasse monter, je me suis remis dans l'eau, immergé jusqu'au cou, histoire d'être à température et pas avoir trop froid. J'avais été tellement crispé et les mains tellement froides avec la corde qui était mouillée et tout ça, que c'était vraiment au niveau des mains où j'avais froid. Enfin ouais, les articulations c'était compliqué. Je suis la dernière personne qui s'en fait monter. Au final on était 4 sur le bateau. Moi je me suis retrouvé à côté de la personne qui a crié que quelqu'un... avait coulé, que c'était emporté par le courant. J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai frotté un peu son dos, histoire qu'il se calme. Donc ils ont commencé à nous ramener vers un quai un peu plus loin. Sur la route, on a croisé un Zodiac avec des plongeurs. Le gars qui barrait le Zodiac où on était, il regarde les plongeurs, il leur dit que, bah, que c'était le bordel, qu'il y avait un soupçon de quelqu'un qui avait coulé. Et que même de là, d'en bas, au niveau de l'eau, ils avaient ressenti les gaz lacrymo, donc il leur a dit de faire attention. Puis après ils nous ont ramenés à quai, je sais plus où exactement, j'ai l'image en tête mais j'arrive pas à situer. Et donc là ils nous ont lâché aux pompiers. Moi je me suis déshabillé, enfin je suis resté en caleçon pour pas avoir trop froid. Ils nous ont donné une couverture de survie et puis là on est resté une heure dans le camion de pompiers sans bouger quasiment. J'entendais ceux qui étaient à l'avant qui ont appelé l'hôpital, les urgences. Et en fait, le médecin urgentiste ne voulait prendre que la personne qui avait l'épaule en vrac. Donc bah, les pompiers se sont battus pour qu'ils nous prennent tous les quatre, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc moi, je me souviens, je suis rentré. Enfin, sur mon bracelet, mon heure d'entrée, c'était 5h55. Donc ouais, on est resté quasiment une heure sur place, puisque l'attaque a eu lieu à 4h30. Et ensuite, on est arrivé à l'hôpital. Ma température à mon arrivée, elle était à 36,2, température corporelle. J'avais été en hypothermie, puisque j'avais eu le temps de me réchauffer dans le camion avec la couverture de survie. À mon arrivée, donc, ils nous ont donné des couvertures chaudes. Et puis voilà, ils nous ont gardé en observation. Moi, je suis resté un peu plus longtemps parce que sur le bateau, une fois qu'on nous ramenait, je commençais à sentir ma tempe, une de mes tempes, la gauche, il me semble, qui commençait à chauffer, à picoter, tout ça. Donc j'en ai fait part au médecin, ils m'ont gardé un peu plus longtemps en observation. Je suis parti de l'hôpital, il était 8h30, 9h. On m'avait proposé de passer un coup de fil, mais ma mère, elle travaillait. Et je voulais pas l'embêter, sachant que je pouvais rentrer par mes propres moyens, que moi ça m'embête pas. Puis je suis rentré chez moi avec mon sac poubelle avec toutes mes affaires, qui pesait une tonne. Et je suis rentré avec les habits de l'hôpital en papier. J'ai pris le car, j'ai fait 1 heure de car comme ça. Puis voilà. Quoi, il était 11h, je me suis allongé dans le canapé parce qu'au final j'avais dormi juste un petit peu à l'hôpital, mais pas grand chose. Je me suis allongé dans le canapé, j'ai regardé la télé. Puis là, à un moment, ma mère est rentrée et puis elle m'a regardé. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que du coup, moi je devais prendre à 7h du matin, je devais prendre un train pour aller à Saint-Étienne parce que je devais aller acheter un camion là-bas. Donc je voulais faire, faire ma journée de taf, enfin ma nuit de travail. Aller à la fête de la musique, et puis moi je m'étais dit à 5h30, 6h, je commence à partir pour aller à la gare et puis choper mon train. Donc je comptais pas rester jusque tard, enfin, ça m'aurait fait 3-4 heures de fête. Et puis voilà, je serais parti, j'aurais dormi dans le train et voilà. Et du coup, je lui explique ce qui s'est passé, et puis là on a longuement discuté pour savoir si je devais porter plainte ou pas. J'ai pris mon samedi pour réfléchir à ce qui s'était passé. J'avais aussi besoin de me poser et tout ça. Donc y a que moi, c'est que le dimanche où j'ai posté un message sur Facebook, justement un appel à témoins pour une plainte collective, qu'on porte plainte tous ensemble. Je me suis dit que ça aurait plus de poids. Et donc c'est là que des amis m'ont tagué sur un article, un appel à témoins du coup aussi de Freeform. C'est une association qui défend le droit à la teuf. Ils ont souvent des stands de prévention concernant la drogue, concernant tous les problèmes qu'on peut avoir en teuf. Et voilà, donc un appel à témoins, pareil pour une plainte. C'est là qu'a commencé tout mon parcours médiatique et judiciaire. Il y a eu 3 enquêtes d'ouvertes, donc une dans le cadre de la mort de Steve. En celle-là, j'y place beaucoup d'espoir. Je sais pas si je suis optimiste. Je préfère éviter parce que je veux pas m'attendre à quelque chose et puis au final être déçu. Mais j'y place beaucoup d'espoir parce que enfin, je pense que la famille de Steve a besoin d'entendre la vérité et qu'on lui rende justice. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Après, il y a une deuxième enquête qui est liée aux plaintes des victimes. Elle a été faite avec Maître Marianne Rostand, qui est à Paris, qui défend beaucoup justement notre communauté. J'ai pas beaucoup d'espoir. Je serais même plutôt pessimiste là-dessus. Enfin, je pense pas qu'on aura réparation. Déjà, l'IGPN, il n'y a pas tous les plaignants qui ont été entendus. Et puis après, en ce qui concerne leur rapport, savoir qu'il était prêt depuis le 16 juillet et qu'ils nous l'ont sorti que fin juillet, le lendemain de la découverte du corps de Steve. En disant qu'il n'y a rien qui prouve que Steve est tombé à cause de la police, que moi je suis tombé à cause de la police. Enfin, clairement que le rapport de l'IGPN dédouane les policiers qui étaient sur place, alors que enfin, moi je n'étais ni bourré ni drogué, et je suis vraiment tombé à cause des gaz. Le fait qu'ils disent qu'il n'y avait aucun rapport entre notre chute et leur charge, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis senti humilié. Enfin, c'était un peu ça, c'était l'humiliation. Genre, en fait, vous valez rien, donc on s'en fout, ils y sont pour rien. C'est vous êtes tombé tout seul, c'est comme tous ceux après, enfin j'en ai entendu plusieurs dans les médias qui disaient que nous les teufeurs, le soir de la fête de la musique, on s'amusait à sauter dans la Loire. parce qu'on était bourré ou autre chose, alors que non, enfin, on habite à Nantes, on connaît la dangerosité de la Loire et jamais on s'amusera à faire ça. Donc ouais, je me suis senti humilié par tous ces propos. Et le fait que ce soit le Premier ministre plutôt que le premier flic de France qui parle de ce rapport, je trouvais ça irrespectueux. Encore plus irrespectueux le fait qu'il balance ça le jour où on retrouve le corps de Steve qui avait rien demandé, qui avait même pas bu, qui avait pas fumé, qui prenait pas de drogue. Donc ouais, ça... Enfin, d'un côté j'ai envie de rire et puis d'un côté j'ai envie de tout casser, quoi. Donc après le rapport de l'IGA, donc l'inspection générale de l'administration, pareil, ça m'a un peu fait mal au cœur. Certes, ils ont pointé un manque de discernement de la patrouille qui était sur place, mais pour moi, c'est pas qu'un manque de discernement, c'est vraiment une attaque. Et dans leur rapport, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de la mairie, c'est la faute des teufers. Et puis après, les flics, c'est juste un manque de discernement. Je comprends pas, parce que toutes les années précédentes, ça s'était très bien passé, la fête de la musique. Et là, il a fallu que ça parte en... Ça part en cacahuète, alors quelques temps après tous ces rapports, il y a Mediapart qui a sorti un article disant qu'en 2017, c'était plus ou moins la même situation, sauf que la patrouille sur place a eu l'intelligence de se dire il y a la Loire derrière, c'est trop dangereux d'intervenir, et donc ils ont attendu que la fête se calme d'elle-même, et au final ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a personne qui est tombé à l'eau cette année-là. La fête de la musique 2019, c'est la seule fête de la musique depuis 25 ans où ça donne là-bas, qui a des blessés et qui a un mort. Donc voilà, le fait que l'IGA dise que ce soit juste un manque de discernement, pour moi c'est du foutage de gueule, sachant que je les ai rencontrés, mais que je leur ai raconté ma soirée, que je leur ai dit que j'avais bu qu'une bière, que s'il n'y avait pas eu de gaz, je ne serais pas tombé à l'eau, parce que j'avais pleinement conscience de mes moyens. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse se couvrir comme ça les uns les autres, alors que clairement, c'est la faute des flics, ils auraient pas chargé, ça se serait très bien passé comme toutes les années précédentes. Après la troisième enquête, elle me sort un peu par les yeux. C'est une enquête liée à une plainte d'une dizaine de policiers qui auraient été soi-disant blessés sur place. Je pense que c'est vraiment une plainte qui est là pour qu'ils puissent se couvrir et que ce soit nous qui nous fassions passer pour les coupables. Vu que c'est les policiers qui l'ont déposé, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là il y aura réparation et je trouve pas ça juste. Déjà avant j'étais pas hyper fan d'eux parce que je voyais toutes les bavures qu'ils pouvaient faire. Mais depuis, ma colère s'est transformée en haine et en peur. On s'est pris plusieurs fois la tête avec ma mère par rapport à eux parce que elle a fait l'armée, donc elle les protège, et elle me dit que ils font qu'obéir aux ordres. Mais pour moi, ça fait pas sens d'obéir aux ordres quand on sait qu'on met des gens en danger alors que c'est pas leur travail. Enfin ouais, du coup j'ai vraiment une haine qui s'est développée envers eux parce que ils m'ont fait du mal, ils ont fait du mal à beaucoup de monde et plus ça va, plus ça empire. Mon rapport a changé avec eux, vraiment. J'ai beaucoup moins confiance en eux et je sais que si jamais j'ai un problème, c'est pas les derniers que j'appellerai, mais pas loin. Les journalistes m'ont contacté et ils m'ont demandé si on pouvait faire une interview sur le cas Wilson. L'interview s'est faite le mercredi, donc en gros ouais, pendant une demi-semaine j'y suis pas retourné. À la base je voulais pas y retourner. Et donc le mercredi j'y suis arrivé en avance par rapport à l'heure du rendez-vous. Je me suis calé au bord de l'eau. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de grillage. Donc ouais, je me suis assis avec les pieds dans le vide. J'ai regardé en bas et ouais, j'ai eu une certaine... C'était un mélange d'émotions parce que j'affectionne particulièrement la Loire parce que moi, je suis à Nantes depuis 2000. J'ai toujours bougé autour de la Loire quasiment. Mon alternance, je l'ai faite à Saumur, il y a la Loire qui passe. C'est un fleuve que, je sais pas, il m'inspire. Et là, il y avait ce sentiment où il y a cet attachement. Mais en même temps, il y a la peur. J'étais pas forcément très à l'aise. C'était spécial. Après, j'y suis retourné plusieurs fois, je me suis rassis sur le bord et tout ça, et j'ai toujours plus ou moins ce sentiment où quand je suis près de la Loire, bon, j'ai cette soirée en tête, mais j'ai cette affection pour ce fleuve, et maintenant j'ai une relation bizarre. 3 semaines après être tombé, je suis allé à Saint-Étienne, et il y a la Loire qui passe là-bas aussi, et il y avait un endroit où se baigner, pareil, dans la Loire. Et la personne avec qui j'étais m'a proposé qu'on fasse baignade, j'ai dit oui. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans déjà. J'y suis rentré. Mais même pour nager, j'étais pas à l'aise. J'avais l'impression de plus savoir nager. Enfin, j'arrivais à nager, mais enfin, il y avait du courant. Et c'est vrai que bah, j'ai ça qui m'est revenu en tête. Après, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse, il fallait que je retourne dedans. Enfin, c'est comme on dit, c'est faut remonter en vélo quand on tombe et tout ça pour continuer à avancer, on va dire. Et après j'ai passé tout mon été sur le quai parce que donc, les amis de Steve étaient là en attendant qu'on retrouve le corps pour regarder s'il refaisait pas surface. Et puis ils étaient là aussi pour qu'on se retrouve tous ensemble, discuter, se soutenir les uns les autres. Après sa disparition, ils ont commencé à organiser des marches. C'est un devoir pour moi de m'y rendre. J'ai besoin de lui rendre hommage. Je me sens particulièrement touché de par ma chute. Je suis attaché à cette cause, j'ai besoin de réponses sur ce qui s'est passé. Je ne demande pas justice pour moi, mais juste justice pour Steve. Pour pas oublier ce qui s'est passé, et pour signifier ma lutte dans la justice, je me suis fait tatouer donc un point fermé pour la lutte avec les lunettes de Steve. Et puis la date du 21 juin. Puis sans faire extra, en plus, je l'ai fait sur la jambe qui est tombée dans le vide, sans y réfléchir. Depuis, je suis retourné plusieurs fois en free party. Il y a toujours eu une minute de silence pour Steve, même dans d'autres départements ou dans d'autres régions. J'ai fait le Textival, un Technival hommage à Steve. J'ai fait d'autres teufs après, et j'en ai besoin parce que bah déjà, quand j'y vais, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un endroit où je me sens libre. Et puis maintenant, j'ai toujours mon petit instant hommage à Steve, où je danse, je pense à lui, je me donne à fond pour danser, quitte à en suer. Et je veux y retourner parce que pour moi, c'est mon hommage à lui, c'est continuer là-dedans et pas m'empêcher de vivre. Essayer de vivre dans la lignée de lui, comment il a vécu, donc en profitant, en souriant, et je veux lui rendre hommage comme ça.